Vous écoutez RTL.
Mais en attendant, les curieux, Thomas et Sylvie.
Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, j'ai pas pu vous entendre parce que j'étais en train de me garer dans la façade d'RTL. Mais il paraît que vous rêvez de faire de la voiture, un petit tour de voiture avec moi. Alors,
quand
je
vous
emmène. Alors, écoutez, c'est juste après l'émission. On va monter dans une voiture autonome pour comprendre comment elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle est encore fragile et dangereuse, pourquoi elle ne détecte pas bien les vélos, pourquoi est-elle gênée par les changements de luminosité ou encore incapable de rouler dans des rues bondées. Vous verrez, ça sera très bien. D'ailleurs, on partira dès 14h30 au milieu de l'émission.
Formidable.
Allez, à très vite Stéphane. Tout de suite, cette année charnière sur RTL, l'année 68.
RTL.
Le conseil d'administration du Festival International du Film décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival International du Film.
La curiosité est un vilain défaut.
Il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté.
Si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'arrête?
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
On parle solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans.
On est bien entre curieux sur RTL.
68 années choc jusqu'au Festival de Cannes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la première radio de France. On est ensemble jusqu'à 15h pour notre plus grand plaisir avec Sidonie. Ça va bien?
Ça va très bien,
en
Thomas.
En pleine forme, j'ai vu ça.
Bonjour, salut les curieux. Histoire, aventure, science, nature, saga musicale et grand destin. C'est ce qui nous passionne tous les jours sur RTL. Et aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'en 1968.
Oui, vous l'avez entendu à l'instant avec Anne Lenaf, journée spéciale sur RTL avec notamment cette radio éphémère. Bravo à Laurent Marsic, hein, c'est à écouter sur RTL.fr à partir de 18h. Et avec nous, Patrick Mahé. Bonjour Patrick.
Bonjour Sidonie, bonjour Thomas.
On est content de vous retrouver.
Oui, oui, très heureux.
Bonjour
de vous
auditeurs.
Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez notamment dirigé le magazine Télé 7 jours pendant deux décennies. Tiens, la radio, c'était vraiment le média phare pendant les événements de mai 68.
La radio, c'était plus qu'un média phare, c'était le moyen en fait, de savoir ce qui se passait dans une sorte de contre-la-montre. En fait, il y avait un contre-la-montre entre les étudiants, les manifestants, les policiers, les auditeurs, les gens qui étaient à l'affût de tout, des nouvelles, et les radios, qui étaient les radios périphériques, comme on les appelait en ce temps-là, faisaient la loi. Pourquoi ? Parce que le journal télévisé était un journal télévisé unique.
Et corseté par le pouvoir.
Et qui est, oui, enfin, le rédacteur en chef aurait pu s'appeler Alain Perfitte, par exemple, à l'époque. En tout cas, c'était ce qui sortait de la rue. Et puis, la radio du Palais Gruyère, comme on l'appelait aussi, était en arrêt parce qu'il y avait des manifestations sans cesse autour de ce qu'avaient appelé les manifestants l'opération Jéricho. C'était un peu emblématique, l'opération Jéricho. Là, on retrouvait un peu tout le monde. On trouvait Michel Drucker, on trouvait Robert Chapat, on voyait Roger Coudet, on voyait pas mal de monde qui manifestait, et Claude Darget avec sa pipe de notable, un peu de province même, et qui manifestait en rond autour du Palais Gruyère. Donc, en fait,
c'est quoi le Palais Gruyère?
C'est là les radios de France Inter, les radios...
Les radios publiques.
Donc les radios périphériques tenaient la rue, en fait. Et on suivait leurs informations entre l'info et l'intox, seconde par seconde.
Patrick Mahé, dans cette émission, dans cette curiosité, on a choisi de revenir sur les autres événements de cette année 68. C'était vraiment une année hors norme.
Totalement hors norme, mais dans le monde entier. Pas du tout seulement avec le pavé parisien et sous les pavés, la plage, pas du tout.
Il n'y avait pas que les étudiants français qui étaient en ébullition.
Il n'y avait pas que ça, il y avait les campus américains de Berkeley, par exemple, qui ont après débouché sur d'autres manifestations, d'autres proclamations, sur Woodstock plus tard, en 69, par le rock'n'roll. Mais aussi, le monde s'embrasait. En Chine, par exemple, Mao était un peu dépassé à ce moment-là, il a lancé la révolution culturelle. En 68, avec les gardes rouges. Il y a des images assez dures. Bon, au Vietnam, on en parlera tout à l'heure, forcément, c'était une sorte d'agonie, c'était affreux. Le Biafra s'enflammait lui aussi. Le printemps de Prague apportait son lot d'espérance à l'Est. Et puis, aux États-Unis, il y avait un certain blues à l'époque, pas seulement pour le Vietnam. Mais il y a eu en 68, la mort de Martin Luther King, le pasteur Luther King qui luttait pour les droits civiques. D'ailleurs, en sa mémoire, on peut le dire, Elvis Presley fera un chanton in the ghetto. Et puis, la mort de Bob Kennedy. Tout ça, ça se passe en 68. Donc c'est une année énorme de basculement.
Alors on l'a entendu tout à l'heure dans la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Dudouis, le Festival de Cannes a été directement impacté par cette fièvre révolutionnaire et on a entendu la voix de Jean-Luc Godard. C'était l'un des meneurs du mouvement.
Oui, surtout que dans ce que disait Godard, ça se terminait par « vous me parlez travelling et etc. Vous êtes des cons
». C'était du Godard.
C'était
non, mais
franc.
Effectivement, franc et massif. Oui. Et donc, c'était un festival bizarre qui a duré 8 jours, en fait. Il a commencé le 10 mai et il s'est terminé le 19, le 18 au soir, très exactement. Il avait commencé par « autant on emporte le vent ». Il s'est terminé d'ailleurs par « autant on emporte le vent », quelque part, hein.
Oui, parce qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de palmarès.
Il n'y a pas eu de palmarès, il n'y a rien eu. Et la scène qui a été prise d'assaut au moment où Godard, Louis Malle, Truffaut
aussi, ouais.
Refusaient la projection du film Peppermint de Carlos Saura, qui lequel s'accrochait au rideau. C'était hallucinant, il y avait Claude
Lelouch. Qu'est-ce qu'il revendiquait? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu à part dans un monde privilégié d'artistes.
C'est un monde privilégié d'artistes, mais ça remontait en fait à février, cette histoire. De même que 68 ans à Paris remontait à mars, avec le 22 mars. Mais c'est pareil. C'est quand le TNP, quand au TNP, on a fait partir Langlois, qui était un peu la figure emblématique du cinéma, du théâtre de cette époque-là, et donc très chérie des intellectuels. Et depuis ce moment-là, les cinéastes, les dramaturges protestaient contre l'éviction d'Henri Langlois. Et du coup, ils ont profité aussi de l'agitation générale, ouvriers, étudiants, étudiants, ouvriers, comme disait ce cher Godard, pour se dire, et nous alors, on est des cons, parce que finalement, on est en vase clos. On vit dans notre festival de Cannes avec des films comme Peppermint, je ne sais pas quoi, et puis Au feu des pompiers. Il y avait Au feu des pompiers, d'ailleurs, de Milos Forman.
Drôle.
Et du coup, ils ont décrété d'arrêter tout ça.
1968, Année choc, c'est le titre du livre que vous avez supervisé, Patrick Mahé, avec quelques très belles signatures, Irène Frey, Jean-Claude Killy, Philippe Labro, Jean-Claude Carrière, Michel Drucker, Jean-Marie Perrier, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, voilà, il y a leurs articles, il y a leurs citations. C'est publié chez Plomb et on va plonger, vous l'avez dit, dans un instant, dans les horreurs de la guerre du Vietnam. A tout de suite sur RTL.
Journée spéciale sur RTL, rendez-vous sur RTL.fr dès 18h pour le lancement de la radio éphémère RTL Radio 68. Nos archives vous feront revivre dans les conditions du direct l'époque des barricades et toute la journée aussi sur l'antenne RTL. On vous fait découvrir dans nos émissions une archive RTL avec Thomas. Écoutez ce qu'on a choisi pour vous.
Je suis maintenant contre un barrage de CRS qui est le long du jardin du Luxembourg. Et CRS ont laissé la fumée se dissiper un tout petit peu et maintenant ils avancent avec les boucliers, certains même ont des fusils, leurs petites sacoches avec les grenades. Vous entendez des explosions assez fortes, ce sont de très fortes grenades qui répandent un nuage jaune.
Vous maintenant au cœur des manifestants de l'autre côté de la seconde barricade. Il doit y avoir en tout dans cette rue Guy-Lussac jusqu'à présent une quarantaine ou une cinquantaine de voitures en feu.
RTL Radio 68, c'est à partir de 18h sur RTL.fr, tout ça préparé, concocté par Laurent Marsic et puis dans toutes les émissions de l'antenne. Un mot, Patrick Mahé, tiens, pendant qu'il y a les barricades à Paris, il s'en passe de belle à Rome avec Brigitte Bardot, qu'est-ce qui se passe?
Brigitte Bardot est en train de tourner à Rome un film qui s'appelle La Femme. Elle joue avec Maurice Ronet sur un scénario dont Maurice Ronet est un écrivain un peu sur le retour qui cherche une secrétaire qui pourrait lui faire écrire un texte érotique et donc choisit Brigitte Bardot. Elle tourne à Rome et Jean-Marie Perrier, le photographe de Salut les copains, oui, a fait une photo assez extraordinaire en avril 68. Il a photographié Sheila, Jacques Dutronc et d'autres, on va dire des yéyés de l'époque, sur des barricades imaginaires. Il a imaginé une scène de barricade en flammes. Donc il est très prémonitoire. Et là, il attend Cohn-Bendit. Il a rendez-vous avec Cohn-Bendit sur les barricades, quelque part, ou à la Sorbonne. Et Cohn-Bendit n'arrive jamais. Il en a ras-le-bol. Jean-Marie Perrier, c'est Jean-Marie Perrier. Lui, c'est Salut les copains. Donc il prend sa bagnole et il part à Rome rejoindre Brigitte Bardot. Il s'arrête en route. Il voit Simone Signoret qui l'engueule, qui lui passe un savon, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Ça brûle à Paris, il faut que tu remontes. Oh, écoute-moi, c'est la Dolce Vita, je vais rejoindre Brigitte. » Et Brigitte l'accueille à Rome où elle tournait La Femme.
Alors, dans la curiosité, on a décidé de faire comme ça trois focus sur des événements marquants de l'année 68, et notamment ce qui s'est passé au Vietnam.
La curiosité est un vilain défaut.
Ce qui se passe au Vietnam choque les Français, toutes catégories sociales confondues. Les GIs sont autorisés à tirer sur tout ce qui bouge. Un carnage insensé.
RTL.
La moitié de la capitale est sur le pied de guerre. À Paris, les manifestants font valoir leurs arguments à grands coups de pavé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Partout, ils se heurtent au pouvoir brut de l'État. Se battre en faveur de la souveraineté d'un peuple s'inscrit pour eux dans la droite ligne de la Révolution française.
Sur RTL, la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Patrick Mahé, où en est l'armée américaine? On est au début de l'année 68.
Elle est enlisée complètement et surtout elle va subir de plein fouet une attaque en règle, bien orchestrée, stratégiquement orchestrée par le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Au début, en 61, quand les Américains arrivent, il y a 400 bérets verts et 700 conseillers militaires. Voilà ce qu'il y a en 61. Et un septennat plus tard, il y a 50 000 hommes, déjà. Et il se trouve que en février 68, il y a une offensive énorme qui est déclenchée par le Nord-Vietnam. Ça s'appelle l'offensive du Tet. Le Tet, c'est une appellation d'une fête religieuse que choisissent à dessein les Nord-Vietnamiens pour associer également dans leur esprit peut-être les populations du Sud sur une fête qui rassemble.
Et dans votre livre, Patrick Mahé, il y a une photo que vous publiez, votre livre 68, Année choc, qui a particulièrement frappé l'opinion publique américaine. Elle date du 24 février. Vous pouvez nous la décrire ?
Oui, c'est la photo de.
On voit des soldats américains sur des brancards.
C'est la photo qu'on a titrée Le radeau de la Méduse. Ouais, c'est la désespérance absolue. En fait, il y a des soldats américains blessés qui sont sur un half-track, qui sont blessés, mais il faut voir comment. Hein, c'est vraiment.
Ils sont mutilés.
Mutilés, voilà. Ils sont sur un half-track, ils sont entassés. C'est une image d'un photographe qui s'appelle John Olson. Et les grands photographes de guerre comme Donald McCullin ou John Olson, ou bien Griffiths, le Gallois, vont faire des images saisissante en première ligne, comme rarement on a vu dans la guerre, ou Catherine Leroy d'ailleurs, citons Catherine Leroy, une Française. Et c'est assez fantastique parce que pendant cette période de l'assaut de la guerre, l'offensive du Tet, et puis la prise de la citadelle de Hue, qui était très emblématique pour les Vietnamiens, parce que c'est la capitale impériale, l'ancienne capitale impériale, il va y avoir des destructions massives de civils, il y aura des exécutions de civils. Rien qu'à Hue, par exemple, il y a eu 5800 morts dans l'épuration de Hue, dont 2800 civils qui ont été exécutés sommairement. Et pendant ce temps-là, dans les collines...
Mais par l'armée américaine
Par les Vietcong. Et donc, dans les collines américaines, les Américains sont encerclés. Il y a 6000 GI qui sont encerclés, à un moment, par 20 000 Vietcong et Nord-Vietnamiens, un peu comme, d'ailleurs, l'armée française l'avait été à Dien Bien Phu. Voilà. Et on retrouve la même histoire, avec des noms de collines perdues, comme il y avait à l'époque de la guerre française, Isabelle, Annabelle, colline XYZ, c'est pareil, c'est la même scène.
Des côtes, 240, etc.
Voilà, exactement.
Mais Patrick Mahé, là aussi, on peut parler des médias, vous avez parlé des photographes, il y a aussi la télé qui joue un rôle essentiel, dans le basculement de l'opinion américaine, on peut dire ça ?
Il y a pas mal d'éléments qui vont faire basculer l'opinion américaine. Effectivement, les images choc qui arrivent de cette violemment comme ça, comme celle que vous avez citée de John Olson dans la citadelle de Hue, bon ça, celle-là, elle fait un malheur, si j'ose dire, dans l'opinion. Et puis, il y a d'autres choses. À l'époque, le président des États-Unis, c'est Johnson. Il a succédé à JFK qui a été assassiné en 63. Il est là. Et il va recevoir un message d'une bande magnétique qu'on va lui envoyer, d'enregistrement de soldats qui crient leur désespoir. Et parmi eux, il y a son beau-fils qui lance un message. Et quand il l'entend, Johnson s'effondre sur son bureau. C'est un choc terrible. C'est connu, ça se répand, les médias sont là justement pour relayer, et on s'aperçoit que l'Amérique est en plein drame à ce moment-là et que c'est plus comment s'en sortir. Donc la fête religieuse du Tet est terrible pour ça, parce qu'il y a 3 bataillons nord-vietnamiens contre 6000 GI encerclés, donc, et on a les images que vous évoquiez avec cette violence. Et après, il y aura les civils, bien sûr.
On continue avec vous, Patrick Mahé, de parcourir votre livre, cette année choc de 1968, publié chez Plomb. On y découvre aussi une femme au destin incroyable, Jackie Kennedy, qui cette année-là devient Onassis. On vous emmène dans les coulisses d'un mariage.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, tout le monde se retrouve dans On est fait pour s'entendre, le magazine interactif qui vous donne la parole du lundi au vendredi de 15h à 16h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Toujours avec le journaliste Patrick Mahé, ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours pendant une décennie et non deux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et combien d'années à Paris Match ?
16 ans,
bravo Sidonie.
Moi je les ai comptés, Patrick.
16 ans à Paris Match, mais c'est pas mal. Et d'ailleurs, un numéro hors série sur les années 60 à découvrir, on en parlera tout à l'heure. Mais là, c'est l'histoire de Jackie Kennedy qu'on va raconter, parce que c'est un événement aussi marquant de l'année 68, cette année choc partout sur la planète. Jackie Kennedy, petit retour en arrière, elle est cantonnée à quel rôle dans la société américaine depuis l'assassinat de son mari en novembre 63?
Il y a une phrase de Ted Kennedy qui est très intéressante et qui montre qui est Jackie Kennedy pour les Américains à ce moment-là. Ted Kennedy dit que, quand il apprend bien sûr qu'elle va se marier, il négociera le mariage, j'expliquerai tout à l'heure, il dit en fait, l'impression américaine c'est que Jackie a trahi l'âme d'une rose qui fleurissait dans les profondeurs de notre cœur.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas le droit de...
C'est comme ça que les Américains la voient.
De se marier en dehors des États-Unis.
Pour les Américains, elle devait être la veuve éternelle. Et d'ailleurs, Christina, la fille de Nazis, l'appelle la veuve. L'appelle pas Jackie, l'appelle la veuve.
C'est un pauvre petit-déj.
Ce mariage, encore aujourd'hui, nous semble quand même assez improbable. Comment il est annoncé ? Comment il est perçu par la société américaine ? Jackie Kennedy, la veuve éplorée, comme vous dites, et Aristote Onassis, dont on va tirer le portrait dans un instant, qui est quand même un milliardaire grec, armateur, pas très recommandable.
Vous savez qu'en 1961, le général de Gaulle avait eu une phrase extraordinaire. Quand les Kennedy étaient venus à Paris, tout le monde était ébloui par la beauté de Jackie Kennedy, son charme, Jacqueline Bouvier pour les Français de plus. Et de Gaulle avait une phrase simple, comme ça, il l'avait regardé du coin de l'œil, il avait dit « Cette femme-là, elle finira sur le yacht, ou le yacht, comme on dit, d'un armateur grec. »
C'est sexy de dire ça, pourquoi il disait ça ?
Non, pas d'un, il avait dit d'un roi du pétrole.
Il avait
une prémonition, peut-être, je ne sais pas laquelle, mais c'est une phrase de Gaulle.
Comment, Patrick Mahé, comment Onassis séduit Jackie Kennedy ?
Il s'y prend... Onassis prend son temps. D'abord, Onassis, il est présent aux obsèques de JFK. C'est quand même inouï.
Il a une idée derrière la tête.
Il est présent aux obsèques de JFK. Il y a une photo de lui, d'ailleurs, que nous publions, qui est assez intéressante quand on la détaille. Il faut regarder le détail. Il tient la main de Jackie, à un moment, donc aux obsèques de JFK, je dis bien.
Ouais.
Et il a un verre de scotch à la main. C'est quand même extraordinaire. Mmh. Donc on a la photo d'un verre de scotch et puis il tient la main de Jackie. C'est quand même énorme, voilà. Donc il prend son temps. Alors elle-même également va prendre son temps. Ça va se passer dans les îles Vierges, the Virgin Islands, où le yacht Christina donc vient en croisière. Et Jackie, qui en a un petit peu marre de la société américaine, qui la considère comme, qui veut la voir en elle, la veuve éplorée éternelle, va le rejoindre. Et très rapidement, ils vont parler mariage, mais ils vont parler business.
C'est-à-dire
ils vont parler mariage en
avant
business.
Avant une histoire d'amour.
Avant l'histoire d'amour.
Avant même une relation amoureuse.
Dit la légende. Oui, maintenant, nous n'étions pas là.
Ça parle business.
Et il parle business.
Mais quel business il y a à faire entre les deux,
simple,
Kennedy et Onassis ?
Le business, c'est en cas de succession, qu'est-ce qui se passe ? Que fait-on des enfants ? L'avenir des enfants ? Jackie, elle a un fantasme. Elle a peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants aux États-Unis. Et c'est vrai qu'un jour, en rentrant de l'école avec John, elle avait mal vécu le fait qu'il soit insulté par des écoliers dans la rue sur la 5e avenue. Mmh. Et elle avait toujours peur qu'un jour, peut-être, un de ses enfants soit enlevé.
Tiens, d'ailleurs, on va faire un portrait de John Kennedy Junior.
La semaine prochaine.
Avec Olivier Royan.
Avec Olivier,
dans quelques jours sur RTL, dans la curiosité. Pourquoi Onassis est le bad boy dans cette histoire ?
Parce que Onassis, il a une réputation sulfureuse. Il a déjà failli se faire mettre en taule dans les années 50 aux États-Unis parce qu'il avait enfreint des lois sur la navigation maritime, etc. Ensuite, il est impliqué dans des trucs de... je dirais pas de trafic, le mot est exagéré, mais à l'époque du pétrole et tout ça, il a des liaisons dangereuses et sulfureuses. Donc c'est le bad boy. Et puis cette espèce d'arrogance qu'on affichait. Et enfin une histoire terrible. Quand il a divorcé de la Callas, par exemple, il divorce de la Callas brutalement. Il fait pas un communiqué à l'AFP, mais il la balance en lui disant « Mais tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'es juste qu'un petit sifflet qui siffle, et d'ailleurs qui siffle mal maintenant, qui siffle plus. » Voilà comment il licencie la Callas. Donc ça se sait, la presse est furibarde, il a une très mauvaise image.
Et c'est elle que Jackie Kennedy décide donc d'épouser avec un homme qui rentre dans la négociation, vous l'avez évoqué rapidement, c'est Ted Kennedy, son ancien beau-frère. Ça négocie au dollar près, on va vous raconter ça dans un instant sur RTL. Et puis dans la curiosité, on monte à bord des voitures autonomes, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être plus prudent.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
L'année 1968, année hors norme, année choc, c'est ce que l'on découvre avec notre invité Patrick Mahé. On a redécouvert avec vous la guerre du Vietnam, le festival de Cannes annulé, et donc ce mariage improbable entre Jackie, la veuve de JFK, et le milliardaire grec, l'armateur Aristote Onassis. Mariage, je le disais, négocié au dollar près par l'ancien beau-frère Ted Kennedy. Ça se passe où et comment, les tractations ?
D'abord, une chose importante, c'est qu'au début, Bob Kennedy est dans la confidence. Bob Kennedy est dans la confidence. Entre Jackie Kennedy et Bob Kennedy, il y a pas mal de complicité. Ils passent beaucoup de nuits blanches à parler.
Peut-être une histoire d'amour aussi.
Peut-être qu'Olivier Royan vous le dira quand il viendra. Je lui laisse quand même avec John. Mais toujours est-il que lui, Bob Kennedy, il a des prétentions pour devenir président des États-Unis. Ouais. Et il dit à Jackie tout de suite, tu peux pas faire ça. En tout cas, pas maintenant. Prends ton temps, sois patiente, on n'est pas pressé. Et il va être assassiné, Bob Kennedy, année-là. Comme Jackie continue à vouloir épouser Onassis, eh bien, c'est Ted Kennedy qui prend le relais. Voilà comment ça s'est passé.
Qu'est-ce qu'il va négocier, Ted Kennedy?
Il a négocié 4 ou 5 choses importantes. Il a négocié, 1, le statut des enfants pour l'avenir, si jamais, le statut des enfants. Il a négocié le problème de la religion, parce que Onassis est orthodoxe, et ils ne savent pas si on va faire un mariage religieux ou un mariage civil. Le Vatican a mis en garde Jackie en lui disant, attention, vous allez épouser un orthodoxe divorcé, donc vous n'aurez plus droit au sacrement de l'Église catholique. Donc il y a une négociation qui est importante là-dessus. Mmh. Ensuite, un budget général pour le mariage, ça c'est peanuts. Hein. La succession, je le disais.
Vous parliez il a négocié jusqu'au dernier dollar. Mais
pourquoi? Un pactole. Parce que Onassis s'engage... Onassis va faire un peu sa pub dans cette histoire, énormément. Il essaie de se refaire une image. Donc Ted Kennedy va négocier... le contrat de mariage avec un pactole qui va dont je ne connais pas le montant, qui va être dédié et accordé à Jackie Kennedy. Alors, Onassis, désormais.
Ouais, ça fait réagir évidemment. Et d'ailleurs, la presse du monde entier.
Il y a un titre énorme de la presse anglaise qui dit Jackie, elle a épousé un chèque en blanc.
C'est joli. Et il y a une phrase aussi, on va terminer là-dessus, Patrick Mahé, d'un des fils d'Aristote Onassis, c'est ça? Qu'est-ce qu'il raconte?
Oui, c'est Tina qui est le fils du premier mariage d'Onassis, et il dit, c'est le couple parfait. Tout le monde fait la gueule quand même au mariage, il faut le savoir. Christina pleure, John qui a 7 ans regarde ses chaussures, Caroline a les yeux dans le vague, elle a 10 ans, et puis Tina est là, on l'a forcé à venir. Il l'a forcé à venir, Onassis. Il est venu en bagnole à fond la caisse, et il dit, c'est le couple parfait. Mon père aime les noms prestigieux et Jackie aime l'argent.
Voilà, ce sera
merci
le dernier
Patrick
mot.
Mahé.
Merci Patrick Mahé. 68 années choc, c'est publié chez Plon. Vous l'avez supervisé avec beaucoup de grandes signatures à relire.
Et un très bon hors-série à venir, nos années 1960, les décennies par Image, à découvrir aussi dans quelques semaines.
Le 28 mai, il y aura 7 numéros par décennie. On revisite les 70 ans de la vie de Paris Match et donc nos 70 ans.
À très vite, chers sociétaires.
Ciao Patrick.
Vous écoutez RTL.